Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Tous les lundis, après les journaux de 8h et 18h.
Merci de votre fidélité. Dans Economia de ce jour, il sera question à nouveau de déflation, un sujet économique fort important, et nous en parlerons avec notre consultant Faustin Onozon dans la rubrique Regard sur la gestion de l'économie. Avant cela, explication de certains termes économiques dont le lexique économique et le rendez-vous habituel sur la bourse avec Quaobris dans les tendances de la bourse. Voici donc pour le sommaire. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à Radio de la Paix.
Le lexique économique. La déflation.
La déflation, on peut la définir comme une inflation négative. C'est un gain aussi du pouvoir d'achat pour les ménages. Cette déflation peut se traduire par une diminution générale et durable des prix. Cela paraît avantageux, mais à terme, cela ne l'est pas pour l'économie des pays.
L'hyperinflation.
L'hyperinflation est une augmentation démesurée du niveau général des prix. D'un point de vue purement statistique, elle se manifeste par une hausse mensuelle des prix excédant plus de 50%. Elle trouve donc généralement sa source, cette hyperinflation, dans les difficultés budgétaires des États qui financent généralement leur déficit en créant de la monnaie.
La désinflation.
En économie, lorsqu'on parle de désinflation, cela désigne une réduction de l'inflation, dans ce cas où celle-ci reste néanmoins positive, ou dans le cas d'un ralentissement de la hausse donc des prix. Par exemple, un pays a connu une désinflation si l'inflation est passée de 10% par an à 3% par an. Mais on est toujours dans une inflation qui est positive, mais qui est maîtrisée, on peut le dire.
Sur la gestion économique nationale.
Cette rubrique, vous la connaissez, Regard sur la gestion de la politique nationale, et c'est avec notre invité, expert, le consultant, qui nous parle donc de comment le monde bouge. Oui, l'économie mondiale avance, mais selon le constat qu'on fait, cette économie est un peu au ralenti quand même, parce que l'inflation est assez dominante pour beaucoup d'économies. La Côte d'Ivoire aussi vit cela. Bon, chaque pays essaie de tirer donc son épingle du jeu en fonction donc de ses politiques pour donc se développer. Et puis, la semaine passée, on a parlé d'une situation qui est une situation inquiétante, n'est-ce pas, au plan économique, c'est la déflation. Alors, la déflation, comme l'a décrit M. Faustin Onozon, c'est une situation où, voilà, vous êtes un peu en baisse, vous ne faites pas de bénéfices, alors qu'on sait qu'une économie, elle permet de tourner. Alors, quand arrive-t-on à cette situation? Tout cela, nous allons creuser. Et surtout, quels sont les pays qui sont concernés? Oui, c'est une réalité des pays, des grands pays qu'on connaît, vivent des situations de déflation de fois. Voilà, M. Faustin Onozon, bonjour.
Bonjour, M. Koumé.
Nous avons décidé de faire ce petit résumé-là pour camper donc la situation que vit l'économie mondiale. Mais bon, elle n'est pas uniforme, cette situation. Nous allons nous intéresser particulièrement à l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Afrique, de manière globale, essaie de tirer son épingle du jeu? Ou bien, là aussi, il y a quand même certains pays à la traîne et d'autres qui tirent donc la locomotive.
Oui, merci, Monsieur Koumé. Généralement, vous savez qu'en Afrique, il y a plusieurs politiques économiques et financières qui sont menées. Nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans le cadre d'une politique économique et financière qui nous permet d'arrimer, par exemple, notre monnaie à l'euro. Et donc, nous dépendons d'une banque centrale commune. En pareille occasion, les décisions ne sont pas prises d'une manière individuelle, elles sont prises d'une manière collective. Il est vrai que quelquefois, ça tarde à venir. C'est ce qui entraîne très souvent les difficultés en matière de gestion de la politique économique et financière.
Et là, vous parlez de l'UEMOA.
De l'UEMOA.
La Côte d'Ivoire fait
voilà,
partie de l'UEMOA.
Par rapport au pays où il y a une liberté en matière de gestion de la politique économique et financière. Quand il faut faire, par exemple, un relèvement de leur économie, mais ils peuvent adopter toutes les politiques qu'il y a. Voilà, une dévaluation, réévaluation, et chercher même à avoir les taux nouveaux directeurs. Chez nous, ce sont des aspects qu'on ne peut que développer à travers l'Union. Individuellement, ce n'est pas possible. Bien entendu, quand c'est comme ça, c'est que les résultats des différentes politiques ne sont pas les mêmes. Ce que je peux déjà dire, c'est que quand il y a eu la pandémie, nous, nous avons réussi à circonscrire les taux d'inflation. Ce qui n'a pas été le cas des autres pays africains qui ne font pas partie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au moment où je vous parle, il y a certains pays, je dirais même certainement la plupart, surtout les pays anglophones, où les taux d'inflation se situent aux alentours de 10%, sinon même quelquefois plus. Alors que nous, on a réussi à circonscrire, on est en train de faire tout pour aller vers le taux d'inflation optimal qui est de 2%.
Monsieur Onozon, justement, est-ce que cette orthodoxie que les pays membres donc, de l'UEMOA se donnent, est-ce que c'est gagnant? Parce qu'on pourrait se dire aussi, les pays dont vous citez, les pays notamment anglophones qui ont un système un peu libéral, donc qui peut agir sur le système économique ne se porte pas aussi mal que cela, du constat qu'on fait. Est-ce qu'avoir un taux d'inflation de 10% ne peut pas faire quand même qu'une économie puisse vivre, se développer?
Ah oui, si, avec un taux d'inflation de 10%, c'est vrai que l'économie peut toujours survivre, mais je préférais employer le mot survivre parce qu'une inflation de 10%, c'est 10% aussi que vous perdez en tant que ménage dans le cadre de la gestion de vos activités économiques et financières. Et vous, en tant que ménage, vos activités économiques et financières, c'est lié à votre salaire. Alors si vous devez démarrer le mois avec 10% de pertes au niveau de votre salaire, je me dis, monsieur Comé, qu'il y a un problème. Et là, c'est à un niveau tout à fait individuel. Mais si le pays, dans son ensemble, doit aller de perte en perte, c'est-à-dire du jour au lendemain, on ne peut pas avoir un objectif assis sur une politique de hausse de la production nationale. Aujourd'hui, on peut avoir tel objectif, mais demain, l'objectif peut être contraire. Voilà un peu quand on a une liberté en matière de gestion de sa politique économique et financière.
Il ne faut pas trop en faire aussi, en tout cas, parce qu'on a ces mécanismes-là qu'on peut se permettre de s'amuser.
Il y en a même qui vont jusqu'à avoir des taux pivots. Et ils savent très bien que leur monnaie n'est pas convertible, mais ils ont un taux pivot de 2%. Lorsque ça monte à plus de 2%, ben, ils arrêtent et ils font en sorte que cette monnaie ne descende pas à moins 2%. C'est-à-dire qu'ils sont dans le juste milieu, et la monnaie n'est pas convertible et ils vivent avec. Ceci étant, je n'ai pas dit que quand on a une liberté en matière de gestion d'échange, c'est qu'on est les derniers, non. Bien au contraire. Mais il faut savoir agencer cette liberté. Mais ceux qui n'ont pas cette liberté aussi en matière de gestion d'échange, mais ils connaissent aussi ce qu'on appelle une variation positive de la production nationale. Ils se développent. Quitte à ces personnes-là de voir comment est-ce qu'elles peuvent gérer les résultats de leur politique économique et financière. Le problème se situe à ce niveau. C'est-à-dire la croissance qu'on a eue, la richesse qu'on a eue, mais comment est-ce qu'on la gère?
C'est surtout la question essentielle, la gestion justement de cette croissance. Mais dans votre développement, vous parliez donc des situations d'inflation. La semaine passée, vous étiez en train de parler des situations dans lesquelles les pays se retrouvent deux fois avec des inflations assez élevées, donc l'hyperinflation, au-delà de 10%. Deux fois en dessous, on est toujours dans l'inflation, mais c'est une inflation galopante. Et puis, à un certain moment, on réussit à aller en dessous des 10%. On est toujours dans l'inflation, mais vous l'avez qualifié de quel type d'inflation?
C'est la désinflation.
La désinflation. Et puis, il y a une situation un peu plus compliquée, la déflation. Alors, nous parlions justement de la déflation. On avait dit que la déflation, c'était vraiment lorsque on descendait en dessous
des
0%, ainsi de suite. Voilà, il y a des pays qui sont dans ces situations-là. Oui, au niveau mondial?
Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a pas mal de pays qui sont dans cette situation. Et il y a même la deuxième puissance économique et financière, la Chine par exemple, a un taux d'inflation de l'ordre de moins 3%. Voilà, c'était à 0,7%, mais on me fait savoir que le taux est maintenant négatif. Il est à pratiquement moins 3%. Et quand vous êtes à ce stade-là, c'est que l'économie, au lieu de progresser, elle régresse. Mm-hmm. C'est-à-dire que tout ce que vous avez mis dans cette économie pour pouvoir la rendre dynamique, et ce sont des fonds que vous avez perdus en quelque sorte.
Qui sont plus trop rentables, voilà. En fait. Vos investissements sont plus rentables.
Ce n'est même plus rentable. C'est-à-dire que vous investissez à perte.
Mais quelles sont les situations qui amènent un pays à se retrouver justement en déflation?
Ce qui amène la déflation, c'est-à-dire on lutte, par exemple, contre l'inflation, et parce qu'on estime que quand il y a une hausse du niveau général des prix, ce sont les mêmes pertes qu'on va réaliser au niveau de la gestion de l'économie nationale. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que les prix baissent. Mais il faut maîtriser cette baisse des prix. Il faut faire en sorte qu'arriver sur le taux, j'allais dire optimal, il faut faire en sorte qu'on reste là. Mais quand vous constatez effectivement que les prix continuent de baisser, mais il faut créer une petite inflation pour pouvoir les relever jusqu'à un certain niveau. Mais pour créer une petite inflation, mais c'est injecter de l'argent encore dans l'économie pour pouvoir relever un tout petit peu le niveau général des prix. Il est mieux de les relever un peu que d'attendre à ce que ces prix baissent et qui partent à un niveau zéro, et qui partent en dessous de zéro pour entrer dans la déflation.
Parce non, que on pourrait dire que c'est avantageux pour les consommateurs d'avoir des prix qui baissent.
Oui, mais à la longue, eux-mêmes, leurs salaires vont baisser aussi. Mm-hmm. Puisque la consommation, lorsque la consommation baisse, par exemple, lorsque les entreprises ne vendent pas comme ils se doivent et qu'elles vendent à perte. Mais ceux-mêmes qui travaillent déjà dans ces entreprises-là, mais les salaires vont baisser, M. Komi. Donc, ils nous ramènent...
Ils n'ont même plus de travail, justement.
Voilà. Ils n'auront même plus d'embauche. Voilà. Et puis, les embauches se raréfient. Et puis, bon, il y a un chômage qui va progresser. Voilà. Ce qui va affecter le revenu des ménages. Donc, il est mieux de ne même pas entrer en déflation. Voilà. C'est quelque chose qu'il ne faut pas souhaiter. Et je vous ai dit qu'il y a des pays qui sont entrés en déflation, mais depuis plus de 20 ans, qui sont encore dans ce contexte-là de déflation.
Alors, c'est une situation, ça m'intrigue assez, une situation de déflation. Et vous dites des pays hein, qui sont assez développés hein, par rapport à l'Afrique, c'est vrai, qui sont encore dans cette situation depuis plusieurs années.
Tout à fait.
C'est dire que c'est une maladie, hein, je vais utiliser ce terme, une maladie économique à fuir. Alors, comment ne pas tomber dans la déflation?
Mais il faut surveiller tout simplement la gestion de la politique économique et financière. Si vous avez eu une inflation d'une manière, j'allais dire, artificielle, c'est-à-dire que si c'est par le biais des taux directeurs et que vous avez eu cette inflation, et même une hyperinflation, mais il faut faire en sorte que cette inflation ou cette hyperinflation baisse. Et lorsque vous arrivez à un niveau optimal de l'inflation, mais il faut surveiller l'inflation. Il faut la surveiller. Et si vous la surveillez, si vous constatez qu'elle est encore en train de baisser, vous faites une injection d'argent. C'est exactement de la même manière qu'on a procédé avec les taux directeurs, par exemple. Qu'on relève, qu'on baisse, etc. Là, il faut injecter de l'argent dans le circuit économique et financier. Et vous allez voir que les prix de ces marchandises-là vont commencer à augmenter.
En tout cas, comme quoi l'économie doit être surveillée comme de lait sur le feu, voilà, ça fait partie de la vie. Hein. C'est en tout cas ce que nous devons comprendre hein, de ce que vous dites pour sortir de ces situations de déflation et ne même pas y arriver en tout cas. Merci à vous, M. Onozan.
Merci, M. Koumé.
Tendance de la bourse.
Un autre numéro des tendances de la bourse dans le cadre de cette rubrique qui vous informe sur l'actualité boursière et avec M. Kouaou. Nous sommes avec lui encore pour parler de bourse. Alors là, M. Kouaou, on parlait d'obligations, on parlait d'actions aussi. Allons-y un peu plus en détail aujourd'hui sur ces deux produits. Vous avez cité un troisième produit lors d'une de nos émissions qui font partie des produits qu'on a, justement les titres. Revenons un peu sur les bourses. En termes donc d'obtention de ces titres-là, justement, quelle est la procédure à suivre en se basant sur les SGI?
Bon, cela renvoie un peu à la leçon qu'on donne, comment passer un ordre de bourse, comment faire pour acquérir un titre. C'est assez simple. On a vu dans l'une des émissions qu'il faut déjà ouvrir un compte titre auprès d'une SGI. Donc, dès que votre compte titre est ouvert, la SGI vous met à disposition des documents ou des systèmes qui vous permettent d'entrer en relation avec elle pour passer les ordres de bourse. Notre partenaire, par exemple, a une interface en ligne où vous pouvez passer l'ordre de bourse en cliquant sur des boutons acheter, les valeurs sont là, les prix sont là, ça circule tout au long de la journée et vous cliquez sur une valeur, vous achetez. C'est aussi simple que d'ouvrir un site de e-commerce et puis de passer une commande. Donc ça, c'est pour certaines SGI qui ont cette interface-là. Les autres vont vous demander d'envoyer un mail, donc vous remplissez un document, un ordre de bourse justement, ordre d'achat ou ordre de vente. Sur ce document, vous renseignez le titre que vous voulez, la quantité que vous voulez, le prix que vous voulez et le délai de l'opération. Vous scannez, vous envoyez. Pour ceux qui demandent des choses, scannez, signez. Pour d'autres, c'est juste le mail qui contient ces informations et vous envoyez. Donc la SGI réceptionne ce ordre de bourse, c'est un ordre. Elle exécute ce ordre-là aux conditions que vous avez données. Quand l'ordre est exécuté, elle revient vers vous pour vous tenir à disposition un avis de réalisation. Donc pour nous qui disposons d'interface en ligne, on n'a pas besoin de ça. Tu cliques en fin de journée, l'avis est déjà généré automatiquement. Mais pour ceux qui sont dans des relations où on envoie des mails, généralement, quand c'est très bien fait, la SGI vous envoie le mail. Quand c'est pas très bien fait, c'est vous qui le lendemain ou le surlendemain demandez est-ce que mon ordre d'il y a deux jours a été exécuté. On vous répond oui et vous envoie un peu comme le reçu. Si vous voulez, l'avis de la façon, c'est comme le reçu d'exécution. Donc voici concrètement comment on passe nos dépôts. C'est pas très compliqué, hein. C'est juste des mails ou quand vous êtes très avancé comme notre SGI, une interface qu'on vous met à disposition pour vous-même passer l'ordre.
Passer l'ordre, ça veut dire choisir donc une action et dire je veux cette action.
Voilà, cliquez un peu, visualisez les sites de e-commerce. Vous cliquez sur un bien, on vous met acheter ou se dit ajouter au panier. C'est à peu près la même chose. On vous met acheter quand vous cliquez. La SGI récupère par derrière l'instruction et l'exécute. Ou bien simplement quand il s'agit de mail, le mail est assez clair. Je vous pourrais trouver 6 juin un ordre d'achat pour et le mail dit en lui-même ce que vous demandez qu'elle fasse. Les SG exécutent les ordres et reviennent vers vous la même journée ou deux jours après en fonction de leur réactivité.
On doit préciser que les SG, c'est des sociétés de gestion, hein, en tout cas de tout ce qui est lié aux finances, à la bourse, c'est cela.
Comme on l'a dit dans l'une de nos émissions, ce sont les intermédiaires agréés pour intervenir en bourse, mais intervenir pour le compte de leurs clients. Donc vous passez un ordre de bourse dans le sens, vous leur transmettez un ordre de bourse qu'elles vont exécuter. Quand on dit passer les ordres de bourse, ne voyez pas vous-même qui allez sur le marché, par exemple au plateau, à la bourse, pour dire je suis venu acheter une action. Sur les marchés financiers, c'est un peu différent. Vous ouvrez un compte chez un intermédiaire qui reçoit vos ordres et qui les exécute sur le marché et qui vous rend compte. Donc ce sont ces structures-là qu'on appelle SGI.
Alors aujourd'hui, on va aider ceux qui ont compris le message de l'investissement en bourse. Hein. Quelle attitude à avoir lorsque éventuellement on est intéressé à l'achat des actions ou à des obligations en tant que potentiel client, on peut dire, d'une entreprise qui veut lever des fonds, quelle attitude à avoir?
Bon, déjà, c'est deux questions différentes que vous avez posées. L'attitude pour celui qui veut investir, l'attitude pour celui qui veut lever des fonds. Celui qui veut investir, ce que nous faisons avec vous, avec les articles que nous publions sur nos sites, sur les réseaux sociaux, c'est de l'initiation. L'initiation a pour but de vous ouvrir l'esprit sur ce qui se passe et essayer de vous mettre un peu la puce à l'oreille. Si ça vous intéresse, vous devez venir à des formations plus poussées qui portent sur le comment. Comment investir en bourse? Comment choisir une valeur? Comment gérer les risques par derrière? Parce que les actions montent, ces actions baissent. Comment je me comporte vis-à-vis de ça? Ce sont ces formations-là que nous donnons chaque mois depuis 2016. Ça, c'est pour celui qui veut investir en bourse. Celui qui veut lever des fonds, c'est un peu différent. La BFM a organisé un marché, comme j'ai dit, pour différentes entreprises de différentes tailles. Donc, il faut déjà se renseigner pour voir mon entreprise en question, par exemple, l'école de la bourse, je vais la coter, est dans quelle catégorie? Bon, généralement, les entreprises auxquelles on pense là, c'est des PME. Les grandes entreprises ont déjà la réponse à cette question-là. Elles iront dans les compétences de grandes entreprises. Donc, si je sais déjà dans quel compartiment je serai, je regarde les conditions, on va me dire il faut produire un business plan, il faut avoir un plan sur 5 ans, il faut avoir tel revenu, tel taux de marge. Donc si je remplis les conditions, je lance une demande. Le conseil régional instruit cette demande-là et agrée. Donc vous autorise pour venir lever des fonds auprès du grand public. Donc c'est une procédure complètement différente de celle que moi je manipule. Moi je m'occupe de ceux qui veulent investir en les formant à l'activité. Le régulateur, toutes les structures s'occupe de ceux qui veulent intervenir en bourse dans le sens lever des fonds. Donc déjà pour vous renseigner sur le type de structure, dans quel compartiment vous rentrez, quelles sont les conditions, tout ça c'est disponible sur le site de la BFM. Déjà documenter tout ça et ensuite vous rendre auprès du régulateur, auprès même des SGI qui vous accompagnent aussi. Donc elles vont arranger toute une documentation pour vous que vous soyez plus présentable auprès des régulateurs et vous aider à obtenir les fonds que vous cherchez.
Vous parlez de formation, c'est-à-dire que vous avez des rendez-vous mensuels pour expliquer comment investir, quel titre.
Oui, depuis 2016, janvier 2016, nous formons tous ceux qui le souhaitent à l'investissement en bourse, notamment à la BFM. Donc, c'est les premiers samedis du mois au niveau du Cocody. Et après ces formations, ces personnes sont accompagnées pour la prise de position sur le marché. Donc, vous n'êtes pas, en tout cas, livré à vous-même.
C'est donc les informations utiles pour vous, à mes auditeurs. Les tendances de la bourse, grâce donc à nos consultants, M. Kouao. On se retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir, en tout cas pour d'autres informations utiles pour vous.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Tous les lundis, après les journaux de 8h et 18h.